livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Un livre, oui, mais quel livre ? Avec l'Oiseau des Lires, nous sommes là pour vous aider, vous conseiller, vous faire partager nos coups de cœur. Aujourd'hui, nous allons parler de littérature fantastique pour ados. Nous vous avons préparé une sélection de romans d'angoisse, de frissons et parfois même d'épouvante pour certains. Bonjour à tous, bonjour Gwen.
Bonjour Charlotte.
Je t'en prie.
Alors, le premier titre est un coup de cœur de ces derniers mois qui s'appelle « Sous l'eau qui dort » de Naïma Murray Zimmerman aux éditions École des loisirs. À Denton, petite ville tranquille des États-Unis, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a des petites histoires, des secrets, peut-être même des choses étranges qui s'y passent près de ce lac et de cette forêt. Les plus jolies filles sortent avec les plus riches des garçons, donc tout va bien pendant que les plus pauvres ne peuvent se contenter que de les regarder. Et parfois, certains souhaitent changer les choses, devenir plus beaux, être plus riches, changer. Mais il faut toujours se méfier de ce que l'on souhaite. Car quand on souhaite quelque chose, rien n'est gratuit. Il faut toujours payer. Et c'est le jour de paye aujourd'hui. Ce roman rappelle énormément l'ambiance du Maine de Stephen King. Cette ambiance sous cloche, en fait, qui va monter crescendo. La tension est palpable jusqu'au moment où voilà, tout bascule dans un décor apocalyptique. C'est un vrai coup de cœur pour les ados et les adultes, parce que c'est vraiment, vraiment très, très bien écrit et tout à fait abordable pour tout le monde. À toi, Charlotte.
Donc moi, ce sera Les Orphelines d'Abeyrod, le tome 1, d'Audrenne, aux éditions École des loisirs. Alors, ce roman nous parle de Joy qui vit dans un orphelinat encadré par des bonnes sœurs, persuadée qu'une vie dure et austère est la meilleure façon d'éduquer des jeunes filles dans la foi. Joy, notre héroïne, n'est pas très aventurière. Non, celle qui répond aux bonnes sœurs, celle qui puise dans les romans son éducation et supporte mal l'encadrement quasi pénitentiaire de l'orphelinat, c'est Margarita. D'ailleurs, Margarita, c'est elle qui va découvrir cette petite porte qui donne sur un souterrain quelque part dans l'abbaye et qui a convaincu Joy d'aller l'explorer. Donc ce qui n'est au départ qu'un jeu pour tromper l'ennui va vite devenir très sérieux et très dangereux quand l'une de leurs camarades ne va pas remonter. C'est comme ça que débute le roman d'Audrenne qui est beaucoup plus angoissant que ses précédents qui étaient pour un public un peu plus jeune. Donc pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, sachez que l'orphelinat d'Abeyrod ne s'est pas toujours appelé ainsi. Il s'appelait avant le manoir du Diable Vert à cause apparemment d'une gargouille immonde qui serait sur le portail. Je vous laisse découvrir la véritable cause. Ensuite, on a aussi Ginger, un des personnages qui est assez étrange, puisqu'en fait, dès qu'elle vous tourne le dos, vous allez entendre une petite comptine latine. Et elle vous soutiendra que ce n'est absolument pas elle qui chante. Voilà, on est un petit peu dans une ambiance comme ça, étrange fantastique, un peu noir. On a tous les ingrédients de la sorcellerie. Donc on a les vieux manoirs, les pentagrammes, les odeurs de soufre, les chansons en latin. Tout ce qui vous donne un peu de frisson et je vous laisse découvrir d'autres choses. Donc voilà, Les Orphelines d'Abeyrod d'Audrenne est dans la sélection du prix des dévoreurs de livres de cette année pour les cinquièmes.
La cité des livres qui rêvent de Walter Smurfs aux éditions des grandes personnes. Alors là, ça va être très très difficile à résumer et à commenter. Il déguste Taimit, dragon de son état, et comme tous les dragons, écrivain. Oui, pourquoi pas. Et son parent en écriture est malheureusement décédé, mais il lui laisse un manuscrit, un extraordinaire manuscrit. Un manuscrit qui lui pousse, qui lui fait rire, qui le fait pleurer, qui le fait chanter. Tout ce qu'on veut, toutes les émotions qui peuvent nous passer par la tête quand on lit. Et Hildegus décide de partir à Bouquimbourg, la cité des livres, pour retrouver ce mystérieux auteur et ce mystérieux manuscrit. Mais si la littérature peut émouvoir, peut bien sûr avoir beaucoup de sentiments, elle peut aussi tuer. Et il va le découvrir à ses risques et périls. Ce roman est magique sur beaucoup de points, finalement. Il est dense, très très dense, mais il foisonne de références littéraires. Il se construit sur deux parties, à la surface, bien sûr, avec les auteurs ratés, les libraires, les éditeurs, les imprimeurs, des cafés littéraires à tous les coins de rue, et dessous, dans les catacombes, là où tous les livres finissent par aller. Et là, on va découvrir encore un autre monde de la Cité des Livres. C'est magique, c'est vraiment un des plus grands romans de fantastique, tellement original. Même les illustrations donnent un aspect étrange à ce livre. Un très bel objet, et en plus une histoire complètement fantastique dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de termes finalement, celle.
Encore une héroïne pour moi, pour ce conte noir de l'écrivain anglais Neil Gaiman. Il s'agit de Coraline aux éditions Albin Michel, collection Wiz. Donc Coraline, elle vient d'emménager dans une grande maison divisée en différents appartements. Ses parents sont fort occupés, n'ont pas vraiment le temps de jouer avec elle, de s'occuper d'elle. Ils ne font quasiment plus attention à ce qu'elle raconte. Elle peut parler qu'elle s'est fait enlever par des extraterrestres. Sa mère va lui répondre gentiment « Oui, oui, c'est bien ma chérie, fais un dessin. » Voyez un peu le tableau. Alors pour remédier à son ennui, elle rend visite à ses voisins, un peu loufoque, il faut dire. On a les demoiselles Spink et Forcible, autrefois actrices qui partagent leur appartement avec toute une tripotée de chiens. Un monsieur qui élève un cirque de souris savantes. Vous voyez un petit peu. Et l'appartement d'à côté qui est inoccupé et n'a aucun accès, excepté une petite porte dans le salon de Caroline qui est fermée à clé. Alors, à ce niveau, on se doute bien du mystère qui va s'épaissir, et en général, une histoire avec une porte fermée qui donne sur un endroit inaccessible n'augure rien de bon. Donc lorsque Caroline va finalement réussir à franchir cette porte, elle va se retrouver dans l'exacte réplique de son appartement à quelques détails près, mais aussi l'exacte réplique de ses parents. Elle a aussi un léger détail près, puisqu'en fait, ils vont avoir des boutons à la place de leurs yeux. Donc cette légère modification, un petit peu flippante tout de même, semble-t-il les rendre beaucoup plus aimants et beaucoup plus attentionnés. La maison, elle aussi, va être plus joyeuse, plus amusante, mais un petit peu à la manière de Pinocchio qui arrive à la fête foraine, on se doute que ça ne va pas durer. Donc Neil Gaiman a créé un roman, dans ce roman un univers loufoque, drôle, mais très sombre, très noir, une ambiance dérangeante, qui fait vraiment penser à Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Les personnages sont piquants. Caroline est une super héroïne curieuse et aventurière, mais mon personnage préféré, ça reste quand même le chat noir. Je me dis que si un chat noir pouvait parler, il parlerait forcément comme ça. Il est sarcastique, arrogant, égocentrique, au final assez antipathique, mais attachant quand même. En plus, il va vraiment aider l'héroïne, Coraline, donc c'est au mieux qu'il soit un petit peu attachant. Il faut savoir que Coraline a remporté le prix Hugo de la meilleure nouvelle en 2003. Le prix Hugo, c'est un prix littéraire américain qui récompense des récits de science-fiction et de fantasy. Et il a aussi été adapté en film d'animation, réalisé par Henry Selick, qui est aussi le réalisateur de James et la peste géante et de l'étrange Noël de Monsieur Jack.
Ben moi, je vais rester sur les garçons pour finir, puisque le dernier livre, c'est L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard. Thomas Ward, notre héros, sur un pitch assez classique finalement, puisqu'il est le septième fils d'un septième fils, bon, est engagé comme apprenti épouvanteur. Et c'est là que ça va changer un peu la donne, puisque un épouvanteur, en fait, est quelqu'un qui chasse les créatures de l'ombre, sorcières, trolls, gobelins, tous les mauvais esprits. Sauf qu'au départ, ils n'ont pas vraiment de pouvoir. Le seul pouvoir qu'il a réellement, Thomas Ward, est en fait une résistance aux forces de l'ombre et la capacité réelle à voir les fantômes. Ce qui, voilà, pour lutter contre une sorcière, n'est pas très très utile quand même. Mais voilà, nous avons basculé dans cette série qui est sur 9 volumes pour l'instant, si je ne m'abuse. Et cette série est bien pour plusieurs raisons, puisqu'elle est très très fantastique, notamment le passage dans le jardin avec les sorcières enterrées la tête en bas. Et la première épreuve de l'apprenti épouvanteur, qui doit rester toute la nuit dans une maison hantée, sans pleurer, a priori, ou sans mourir, en tout cas, comme lui dit son maître. Et surtout, à chaque volume, on va apprendre quelque chose. Ce qui est bien, c'est ce fil rouge, en fait. Chaque volume nous rapproche d'un peu du personnage, donc de Thomas Ward, qui semble avoir un passé mystérieux, finalement, ce jeune homme, à une famille assez étrange, de sa mère aussi, sa mère qui voit les fantômes au départ du volume et qui semble surtout avoir, elle aussi, une histoire assez particulière, et ce maître qui n'a pas toujours été épouvanteur, quand même, et qui, surtout, lui aussi, a un talent un peu particulier. Et il y aura plein de rencontres. Il y a beaucoup de choses dans ces volumes. C'est un vrai récit fantastique, dans la plus pure tradition du fantastique, puisqu'il est très, très effrayant, très, comment dire, dans une ambiance assez sombre, noire, mais en même temps, voilà, on a envie de pousser, on a envie de savoir si Thomas Ward va s'en sortir, parce que tout est lié à une prophétie qu'on va avoir sur tous les volumes, et cette prophétie, on ne sait pas quand elle arrivera. On ne sait pas à quel moment elle sera liée au monde actuel, puisque cette prophétie semble venir de très très loin. C'est un très très grand récit de fantastique, une très grande série, une très grande saga, qui promet encore quelques volumes assez dantesques de ce côté-là, puisque je ne vais pas vous en dire plus, mais le diable semble se réveiller à nouveau.
Je termine pour ma part avec La fille du marais de Franny Billingsley aux éditions des Grandes Personnes. Donc encore une héroïne, c'était pas vraiment fait exprès, je m'en suis pas rendu compte, je prenais que des héroïnes, mais enfin. Donc Briony Larkin a 17 ans et vit dans une région reculée de l'Angleterre où les êtres de la nuit, les créatures fantastiques et les esprits magiques peuplent le marais à côté de son village. Donc Briony a le don de seconde vue et doit le cacher puisqu'en fait, dans ce village, les personnes douées de telles capacités sont des sorcières et les sorcières sont pendues. Enfant, Briony a le vague souvenir d'avoir causé l'accident de sa sœur jumelle Rose, qui l'a rendue déficiente mentalement, et quelques années plus tard, d'avoir été responsable de la mort de sa belle-mère, qui l'avait élevée dans le dégoût de soi, lui répétant sans cesse qu'une sorcière était un être dangereux, perfide et mauvais. Donc on a donc une héroïne qui est persuadée d'être un monstre et qui doit cacher sa nature. L'histoire pourrait continuer comme ça, une jeune fille mal dans sa peau, dans un univers un peu fantastique, mais bon, ce serait beaucoup moins intéressant, puisqu'arrivent en fait des travaux de construction des chemins de fer près du village qui nécessitent d'assécher le marais, ce qui va causer la fureur du seigneur du marais, qui va s'en prendre au village, aux villageois, et notamment à sa jeune sœur Rose. Donc Briony, avec ses capacités, est la seule à pouvoir sauver sa sœur. Donc pour ce roman, nous sommes vraiment dans une ambiance noire aussi, puisque dans cette histoire qui dit magie, dit vraiment danger, on n'est pas du tout dans une magie bienfaitrice, merveilleuse, mais vraiment mortelle. Qui s'aventure dans le marais sans prendre garde, il meurt la plupart du temps, ou revient amputé ou fou à lier. Donc c'est une ambiance parfois pesante, puisqu'en fait on est à la première personne, on est dans la tête de l'héroïne qui pense donc être la méchante de l'histoire. Donc une bonne partie du roman, elle se lamente sur elle, mais il y a quand même des éléments positifs, puisqu'il y a une romance avec la construction du chemin de fer. Arrive Elric, le fils de l'ingénieur des chemins de fer, et donc on va avoir quand même un sentiment positif et une romance qui va être un peu le fil conducteur tout au long du roman. Voilà, L'Oiseau Délire, l'émission qui parle de littérature jeunesse, est finie pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours à la même heure. Et n'oubliez pas, les livres s'empruntent en médiathèque et s'achètent en librairie.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.